Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous dans Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. Au cœur de l'April, nous allons vous parler de certaines de nos actions en cours à venir et nous allons faire un court retour sur un an de présidence de Magali et nous répondrons à vos questions si vous en avez. Ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme au début de l'émission une interview sur WYSIWYPRINT qui permet de transformer du HTML en PDF. Et également en fin d'émission, enfin, la vérité cachée de l'informatique merdique, selon Luc. Nous allons parler de tout ça dans l'émission du jour. Soyez bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'émission, c'est libreavoue.org. Vous pouvez trouver une page consacrée à l'émission du jour, avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. Notre émission est diffusée depuis 2018 sur les ondes de la radio Cause Commune. Cette diffusion permet de toucher un très large public. Radio Cause Commune fonctionne grâce à l'engagement de bénévoles, sans aucune personne salariée, mais a bien sûr des frais de fonctionnement. Et la radio fait face actuellement à de gros soucis pour payer les factures de fin d'année et début d'année 2024. Nous vous encourageons, si vous le pouvez, à donc faire un don pour permettre à Radio Cause Commune de continuer à exister et pour nous permettre aussi de continuer à proposer notre émission auprès d'un large public. Si vous nous écoutez via la bande FM ou le DAB+, aidez Cause Commune à passer ce cap difficile et à faire vivre votre radio locale. Pour nous aider, rendez-vous sur le site causecommune.fm et cliquez sur le bandeau d'appel à don. Nous sommes mardi 28 novembre 2023, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, mon collègue Étienne Gonu, qui n'est pas en grande forme mais qui a fait l'effort de venir aujourd'hui pour faire assurer la régie. Bonjour Étienne.
Salut Fred, c'est un plaisir d'être là.
Nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Nous allons commencer par une interview de présentation de WYSIWYPRINT qui permet de transformer du HTML du CSS en PDF. Alors je vais passer à la parole à Julie Chaumard, bénévole à l'April, qui fait depuis quelques semaines la régie de l'émission. C'est sa première interview dans Libre à vous, donc voilà, je la remercie d'avoir proposé ce sujet. Je te passe la parole ainsi qu'à tes invités.
Bonjour Frédéric, merci, bonjour à tous. Je voulais effectivement présenter le logiciel libre WYSIWYPRINT, qui, à mon sens, est une application de grande qualité et que j'ai pu essayer. C'est pourquoi j'ai invité deux créateurs de cette application. Bonjour Lucie Anglade, bonjour Guillaume Ayoub, merci d'être avec nous en direct.
Bonjour.
Bonjour.
Guillaume, en 2011, tu as démarré le développement du logiciel WYSIWYPRINT avec Simon Sapin. Et vous avez été rejoint plus tard par Lucie. Lucie, peux-tu nous présenter le logiciel libre WYSIWYPRINT?
Oui, donc WYSIWYPRINT, c'est un outil qui est open source et qui est développé en Python. C'est un outil qui va permettre, donc, comme vous l'avez dit, de transformer du HTML CSS en document PDF. Donc à la même manière qu'un site web, on va retrouver la structure et le contenu avec du HTML et le CSS qui va permettre un peu de mettre en page le document, de la même manière qu'on met en page un site web, donc pour mettre un logo, par exemple, en haut à droite, un titre écrit en gros, un numéro de page en bas à gauche, pourquoi pas. Donc ça peut paraître un peu bizarre de d'utiliser du HTML CSS pour créer des documents PDF. Mais en fait, cette idée, elle vient de là où on travaillait avant, qui s'appelle COSEA. Il y avait plusieurs documents qu'on devait générer qui devaient toujours avoir la même tête, mais pas exactement le même contenu, comme des factures et des rapports, par exemple. Du coup, au début, on a essayé d'utiliser du LaTeX ou des templates LibreOffice. Donc, c'est deux outils qui sont très puissants, mais pas très pratiques dès qu'il faut faire un peu de la mise en page moins rudimentaire, un peu plus sympa visuellement. Du coup, on s'est dit, bah, pourquoi pas HTML et CSS. Et en fait, CSS, c'est défini dans des documents qui expliquent comment ça doit fonctionner. Ça s'appelle des spécifications. Et en fait, dans ces documents, dès le début, c'est en 1996, bah, ça expliquait déjà comment à CSS ça doit se comporter pour des documents paginés. Donc du coup, en fait, tout fait sens d'utiliser du HTML et du CSS pour faire des documents PDF.
Je te remercie, Lucie. En fait, tu as utilisé les termes techniques HTML et CSS. En fait, ce sont des langages utilisés dans la création de pages Internet. Et tu les as opposés à LaTeX et à LibreOffice, qui eux sont plutôt des outils de traitement de texte. Donc tu nous expliques que vous êtes plutôt parti sur des technologies de pages internet que de traitement de texte pour la création des PDF. Merci Lucie. Guillaume, je me tourne vers toi à présent. Peux-tu nous dire où l'on peut télécharger cette application ?
Alors sous Linux c'est assez facile en fait parce que WYSIWYGPRINT est déjà packagé pour un grand nombre de distributions Linux. Sous Debian, sous Ubuntu, sous Fedora, sous Arch, sous Gentoo, sous beaucoup de distributions. Du coup ça peut être installé facilement par ces paquets là. Et autrement on peut l'installer comme n'importe quel paquet Python classique avec un outil qui s'appelle pip. Ça fonctionne sous Linux bien sûr, mais ça fonctionne aussi sous macOS et sous Windows si jamais vous êtes sur d'autres OS.
Donc si je comprends bien, on peut télécharger WYSIWYGPRINT depuis le site internet wysiwyprint.org où l'on trouvera toute la doc pour expliquer comment on l'installe, où c'est qu'on la trouve. Et aussi, donc, elle est déjà installée avec les paquets d'installation de Linux.
C'est ça, exactement. C'est déjà packagé pour beaucoup de distributions.
Ok, super. Et peux-tu nous détailler quelques-unes des nombreuses fonctionnalités de WYSIWYGPRINT ?
Oui, en fait, WYSIWYGPRINT, c'est un moteur de rendu donc, qui fait comme un navigateur, sauf que ça rend des PDF. Et c'est fait exactement pour gérer la pagination, c'est-à-dire gérer le fait qu'il va y avoir des pages. Il y a plein de fonctionnalités qui sont assez naturelles dans les livres. Les tailles de pages différentes, avec des marges, des en-têtes, des pieds de page, des règles pour forcer ou pour éviter des coupures de page, des notes de bas de page, enfin bref, toutes les fonctionnalités qui sont assez classiques dès qu'on fait de la mise en page classique. Et puis, toutes ces fonctionnalités-là, en fait, on va pouvoir directement les gérer en CSS, comme on gérerait les couleurs ou les tailles de texte classiques. Et c'est tout dans les spécifications, comme disait Lucie juste avant.
Oui, effectivement, j'ai moi-même essayé WYSIWYGPRINT et je trouvais qu'on écrivait donc du CSS et ça rendait on le compilait, ça rendait un superbe PDF avec tout un tas de fonctionnalités pour afficher exactement comme l'on veut la pagination, les marges, les images. Voilà. Mais de par son installation, son mode d'installation et son utilisation, il semblerait que WYSIWYGPRINT soit une application plutôt dédiée aux développeurs. Lucie, peux-tu nous dire du coup quels sont peux-tu nous en dire plus sur les avantages que WYSIWYGPRINT offre aux développeurs ?
Ouais. Alors l'avantage principal, c'est qu'en se basant sur HTML et CSS, il y a déjà une grande partie des développeurs et des développeuses qui connaissent au minimum ces langages-là, et du coup ça va être plutôt facile pour créer des documents, parce qu'on prend comme si on faisait un site web, et au final ça va sortir en PDF. Et après il y a un avantage aussi, plus du côté pour les graphistes, parce que quand on design des maquettes de documents et des choses comme ça, bah, comme on disait plus tôt, avec LibreOffice et LaTeX, c'est un peu dur et pas très fun. Et ils ont plus l'habitude, les graphistes, d'utiliser du CSS pour faire des sites web. Et donc, du coup, ça va être plus sympa après pour faire un PDF derrière.
Ok, donc en fait, les développeurs, les graphistes utilisent déjà ces outils pour faire les présentations à la manière dont ils veulent. Et du coup, c'est plus facile pour eux parce que c'est un langage vraiment... qui permet beaucoup de fonctionnalités et beaucoup de personnalisation.
Ouais, c'est ça. Ça va être exactement pareil, que ce soit le CSS ou le HTML, que pour faire un site web. C'est juste qu'il va y avoir certaines spécificités après qui vont être liées au fait de faire un document paginé. Par exemple, en CSS, on a des règles des @page, c'est @page, et ça va permettre de définir des trucs qui vont être vraiment spécifiques. Un document sur une page, par exemple, la taille des pages, la taille, si on veut, en paysage ou en portrait, par exemple.
Ok, merci Lucie. Guillaume, peux-tu nous dire si vous avez beaucoup d'utilisateurs ? Est-ce que le logiciel est adopté par de grandes structures dans l'industrie ou dans des organismes publics ? Et quels usages en font-ils ?
Alors oui, ça commence à être un logiciel qui a plus de 10 ans maintenant. Du coup, on a environ 1 million de téléchargements par mois, ce qui commence à faire pas mal déjà. On sait qu'il y a des grandes entreprises qui l'utilisent, mais on ne sait pas forcément qui, puisque comme c'est du libre, tout le monde ne nous contacte pas quand ils sont utilisateurs. On sait qu'il y a des grands groupes comme MetLife ou comme Apple, ou des gouvernements aussi beaucoup en France, au Royaume-Uni, qui utilisent. Et sinon, au niveau des cas d'usage, il y a vraiment plein de cas d'usage très très différents. C'est utilisé pour faire des notices d'utilisation de l'électroménager, des étiquettes électroniques, des publications scientifiques aussi. Il y a Open Edition qui l'utilise. Et puis beaucoup de rapports d'audit, beaucoup de rapports de sécurité, bref, tout ce qui a besoin d'être mis en page automatiquement et généré en PDF.
Oui, c'est impressionnant. Si je comprends bien, les grandes structures finales financent le développement de nouvelles fonctionnalités dont elles auraient besoin, que vous pouvez intégrer ensuite dans le logiciel libre. D'ailleurs, Lucie, avez-vous des partenaires qui vous soutiennent et qui enrichissent votre offre ?
Ouais, donc bah, comme tu l'as dit, il y a des entreprises qui vont pouvoir financer des ajouts de nouvelles fonctionnalités. Nous, aujourd'hui, on vit de l'activité sur WeezyPrint et autour de WeezyPrint. Bon, la principale source, ouais, ça va être des entreprises qui vont avoir besoin d'une nouvelle fonctionnalité ou de corriger un bug en particulier. Par exemple, sur cette année, on a pu rajouter le support de divers formats de PDF, parce qu'il y a les formats PDF classiques. Et après, il y a des formats de PDF un peu particuliers pour faire des PDF accessibles ou des PDF archivables. Et ça, c'est des entreprises qui avaient bah, ce besoin-là, qui du coup ont financé le rajout de la fonctionnalité dans WeezyPrint. Après, on a toute une partie qui va être du sponsoring. Donc nous, on passe par la plateforme Open Collective. Et du coup, bah, les entreprises ou les personnes à titre personnel peuvent nous soutenir, que ce soit par des dons mensuels, ponctuels. Et du coup, nous, ça va nous permettre de réserver du temps pour bah, corriger des bugs et rajouter des fonctionnalités, toujours. Et aussi juste de répondre aux gens sur les tickets quand ils les ouvrent, parce que ça prend quand même pas mal de temps. Et après, on a une dernière partie où ça va être plus autour de WeezyPrint, sans être sur WeezyPrint directement, quand les entreprises vont avoir des maquettes de documents qui sont trop stylées, mais après ils n'ont pas le temps ou les compétences pour les transformer en HTML, CSS, et nous du coup on va intervenir là-dessus pour leur fournir un template qu'ils pourront après utiliser dans leur application en interne ou autre.
Lucie, Guillaume, j'ai deux questions qui sont relayées sur le salon web, donc c'était pas des questions prévues, j'espère que vous allez pouvoir y répondre sans trop de soucis. Alors, il y a une, quelle est la différence entre WeezyPrint et Paged.js? Alors, je ne sais pas ce que c'est Paged.js.
C'est un logiciel qui fait un petit peu pareil, qu'on connaît bien, et on est très très amis avec les développeuses et développeurs de cet outil-là, donc c'est un très bon outil. Ça marche un peu pareil, la différence principale c'est que WeezyPrint c'est basé sur un moteur qu'on a écrit nous-mêmes. Du coup c'est un petit peu indépendant, il y a des avantages et des inconvénients à ça. Paged.js est basé lui sur directement le moteur de rendu des navigateurs et il rajoute par-dessus des règles pour avoir de la pagination. En gros, si vous voulez faire un livre bien mis en page avec du HTML et CSS, Paged.js c'est vraiment un très bon outil pour ça. Si vous voulez faire de l'automatisation de génération de documents de manière un peu plus industrielle, pour ce cas d'usage là il vaut peut-être mieux utiliser WeezyPrint.
D'accord. Alors, deuxième question, qui est donc d'Antoine, je crois que c'est Antoine, notre graphiste, qui demande, est-ce que le PDF peut être envoyé chez un imprimeur avec des traits de coupe, des profils colorimétriques tels que cyan, magenta, etc.
Alors, ça, c'est une fonctionnalité qui est demandée souvent. Aujourd'hui, dans WeezyPrint directement, on manque de spécifications pour pouvoir faire les fonctionnalités nécessaires pour faire ça. Cela étant dit, il y a des outils qui sont totalement capables de prendre le PDF généré par WeezyPrint et de rajouter toutes ces informations-là. Nous, on fait déjà les traits de coupe, les fonds perdus et tout ce qui va permettre de pouvoir faire la mise en page. Et sinon, il y a des outils qui vont permettre de pouvoir rajouter toute la partie gestion des couleurs pour l'impression. Et du coup, au final, ça correspond à toutes les demandes qu'on a eues. Actuellement, elles sont possibles avec des outils à côté qui peuvent être utilisés pour faire ça.
Ok, merci.
Merci Guillaume. Vous avez donc créé la société Courbouillon. Donc, quelle est la relation entre Courbouillon et WeezyPrint, rapidement ?
Alors du coup, Courbouillon, c'est la marque sur laquelle on va proposer tous les services dont on vient de parler pour ajouter des fonctionnalités, corriger des bugs, faire des templates HTML et CSS. Et du coup, après, vous pouvez, si ça vous intéresse, aller voir sur notre site WeezyPrint.org si vous voulez voir des exemples de documents qu'on peut générer avec. Et voilà, n'hésitez pas à aller voir des beaux rapports, des belles factures.
Oui. Merci Lucie. Lucie, je voulais mettre l'accent aussi sur le fait que tu es donc cofondatrice et associée de Courbouillon et que tu es également présidente de l'AFPI, qui est l'Association française du langage de programmation Python. Et j'ai vu que hier soir, vous avez organisé un événement en mixité choisie. Donc, peux-tu rapidement nous expliquer cet événement ?
Tout à fait. Donc, du coup, généralement, moi, je suis sur Lyon, donc j'organise les meet-ups. C'est une fois par mois, les meet-ups Python. Et en fait, on voit que souvent, pas que dans la communauté Python, mais en informatique en général, il y a un petit souci de manque de diversité. Et du coup, on s'est dit, on va faire des meet-ups en mixité choisie. Donc là, c'était réservé aux personnes qui se reconnaissent dans le genre féminin et aux personnes non binaires. Et donc, on a eu deux présentations. Une technique sur Scrappy, c'est une librairie Python qui permet d'aller récupérer des données sur Internet, en gros. Et une présentation moins technique sur les gens ne savent pas ce qu'ils font en général. Et donc, l'idée, ça a été de rassembler des personnes qui, d'habitude, on ne croise pas au meet-up. Et du coup, on a été 18 participantes. Tout le monde est resté jusqu'à la fin pour discuter, manger un morceau et tout. Et du coup, on voit bien qu'il faut ce genre d'événement pour améliorer la diversité en informatique.
Bravo. Merci, Lucie. Je vous remercie, Lucie et Guillaume, d'avoir répondu et présenté WheezyPrint.
Et puis, merci, Julie, d'avoir organisé et proposé cette interview. On va rappeler juste les sites web. Donc, WheezyPrint, c'est wheezyprint.org. Courbouillon, c'est courbouillon.org. Et donc, nos invités, Lucie Anglade et Guillaume Ayoub, je vous remercie. Puis, à bientôt. Et puis, évidemment, quand vous êtes de passage à Paris, j'ai Magali qui est à côté de moi, qui était à l'apéro AFPI April il y a quelques semaines. Le local de l'April est bien sûr le bienvenu pour organiser des événements en commun.
Merci beaucoup.
Bonne journée à vous. À bientôt. Nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous aborderons notre sujet principal au cœur de l'April, avec plusieurs personnes actives de l'April pour parler des sujets. Mais en attendant, nous allons écouter un groupe que j'aime beaucoup et que Magali a découvert aussi et qu'elle aime bien. C'est 1, 2, 3 Petits Pois par Ciboulette Compagnie. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée, l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
Pa 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 p
Nous venons d'écouter 1, 2, 3 Petit Pois par Ciboulette Company, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY 3.0.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons passer au sujet principal. Nous allons donc poursuivre par notre sujet principal intitulé « Au cœur de l'April ». L'occasion pour vous d'en savoir plus sur nos actions et aussi de nous poser toutes questions. Donc n'hésitez pas à participer à notre conversation. Pour cela, vous avez plusieurs moyens. Le téléphone 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Sur le salon web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm, bouton de chat. Ou directement sur le site libreavoue.org. Ou encore, on fait de l'innovation via le hashtag dièse libre à vous sur Mastodon. Et donc, on surveille tous ces réseaux. Etienne se tient prêt à dégainer le téléphone au cas où vous appeliez. Donc, on va discuter avec plusieurs personnes actives de l'April. Alors, il y a une liste de sujets, mais évidemment, les personnes qui sont déjà présentes à mon plateau peuvent aussi intervenir sur les autres sujets. Et on va commencer normalement avec la seule qui n'est pas en plateau, qui est en Italie, Marie-Odile. Est-ce que tu es là?
Oui, je suis là, mais je ne sais pas si je suis connectée.
Si, si, on t'entend bien. Parfait. Alors donc, Marie-Odile Morandi, tu es la merveilleuse animatrice du groupe Transcription de l'April et également administratrice de l'association. Alors bah, déjà, première question, présente-nous le groupe Transcription de l'April.
D'accord. Alors, je vais vous présenter le groupe Transcription. Et d'abord, on va se poser la question, pourquoi transcrire ? En fait, de nombreuses conférences et de nombreuses émissions de radio, des vidéos, des podcasts sont mis à disposition sur le web. Si bien que le groupe Transcription de l'April a pour mission de transformer ces vidéos et ces fichiers audio en texte. En effet, comment en faire pour retrouver une conférence audio ou une vidéo sur Internet? À moins de se souvenir du titre, du nom de l'intervenant, ça va être compliqué. Par contre, si elle a été transcrite, cette conférence sera alors associée à un texte que les moteurs de recherche vont pouvoir récupérer et indexer. Le son et la vidéo ont envahi nos espaces, mais le texte est encore une valeur sûre. De plus en plus de personnes doivent composer avec des problèmes de handicap, n'entendent pas ce qui est dit dans la conférence, ne voient pas la gestuelle, les mimiques des intervenants visant à renforcer le message. La transcription non seulement reporte le plus fidèlement possible les paroles des intervenants, mais s'attache à décrire certains détails. La conférence est ainsi rendue accessible aux personnes porteuses de handicap qui, sinon, n'y auraient pas accès. Quand on écoute une conférence, on se souvient de l'idée générale. Mais est-on bien certain d'avoir tout compris, de ne pas avoir fait d'erreur d'interprétation ? Écouter une seule fois une émission, un podcast, permet-il d'en apprécier réellement le contenu, d'en retenir les idées ? Grâce à la transcription, on pourra retrouver les termes utilisés par l'orateur, les réutiliser en citant fidèlement la source. Donc, nos maîtres mots sont indexation, accessibilité et réutilisation. On a aussi des retours de personnes qui savent qu'une vidéo est disponible sur les réseaux, mais qui n'ont pas le temps de la regarder et qui préfèrent lire sa transcription. Alors, tu posais la question sur le groupe Transcription. Actuellement, il y a à peu près 80 personnes dans le groupe, certaines actives très régulièrement, d'autres un peu moins souvent.
Oh, oui, on va dire comme une kayak. Tu es la principale personne active, tu dois faire la quasi-totalité des transcriptions, et il y a peut-être deux personnes qui relisent. Parce que quand on dit souvent sur les listes, il y a 80 personnes sur une liste, on a l'impression que tout le monde agit. Non, il y a beaucoup de gens simplement qui regardent de temps en temps les messages, qui peut-être un jour d'ailleurs se deviendront contributrices, mais quand même le gros du travail, c'est toi qui le fais avec une ou deux personnes qui font des relectures.
Tout à fait. Alors, et puis, il faut noter aussi que les intervenants, les intervenantes sont sollicités pour relire et le font à peu près régulièrement.
Alors, quelle est ta méthode de travail? Parce que on se demande, est-ce que tu fais tout à la main? Est-ce que tu utilises des logiciels? Est-ce que tu utilises ChatGPT, par exemple, ou pour transcrire? Non, je blague, hein, mais explique-nous comment tu travailles, non. Comment tu fais les transcriptions?
Alors, la procédure, personnellement, je travaille d'abord en local et j'utilise, bien entendu, comme il se doit, des logiciels libres, le traitement de texte de la suite LibreOffice, sur lequel est installé le correcteur Grammalect que je recommande vivement à toutes et tous. Et comme lecteur multimédia, j'utilise MPV. Alors, la transcription est ensuite sauvegardée sur un wiki hébergé sur un serveur de l'April, ce qui permet un travail collaboratif. Quiconque peut se créer un compte, relire et apporter des corrections. Le transcripteur avertit de la présence de cette transcription les colistiers de la liste, mais aussi, comme je viens de le dire, les personnes qui sont intervenues pour une relecture. La transcription, relie, corrigée, est ensuite finalisée. Des liens vers certains sites sont insérés. Une illustration vient l'agrémenter. D'ailleurs, je viens de demander l'autorisation à Serge Abitboul et à Hervé Le Cronier d'utiliser l'illustration de la couverture du livre qui a hacké Garutsia, pour pouvoir l'utiliser sur le site Libre à lire, et bien entendu, cette autorisation vient de m'être accordée. Et alors, je dois remercier effectivement un outil bien efficace et bien utile. Quand on transcrit, on a devant soi une feuille blanche, et si on travaille de façon artisanale, comme je viens de le décrire, cette feuille se remplit petit à petit. On pourrait penser au syndrome de la page blanche de l'écrivain. Mais j'utilise désormais régulièrement le logiciel Script, dont le code source est sous licence libre. C'est un transcripteur audio-vidéo-texte, résultat du travail de plusieurs personnes et des CEMEA, Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active. Il suffit de se connecter au site, d'indiquer l'origine du média sonore, la langue, son adresse mail, et hop, au bout d'un temps correspondant à la durée du média, on reçoit un message avec une pièce jointe qui contient les phrases. Certes, il faut relire de façon consciencieuse et attentive plusieurs fois, mais c'est un gain de temps. Ce système, me semble-t-il, a fait d'énormes progrès. J'étais un peu réticente à l'utiliser il y a encore quelques mois, mais je l'utilise régulièrement désormais. Donc n'hésitez pas à vous connecter à ce site pour en savoir plus.
Alors le site en question c'est scribe.cma.org et je rappelle aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent que toutes les références qu'on cite, on les met sur la page consacrée à l'émission et c'est la page de l'émission c'est libreavoue.org/193 tout simplement parce que c'est la 193e émission de l'April. On approche de la 200e, je dis ça, je dis rien. Comment les gens, pour finir Marie-Odile, mais évidemment tu resteras après avec nous pour les autres échanges, comment les gens peuvent tout simplement rejoindre le groupe transcription? Quelle est la procédure? S'il y a une procédure.
Oui, déjà, il faut mettre une chose au point. Ne pas savoir coder n'est pas du tout un frein pour participer au logiciel libre. On peut contribuer de nombreuses façons et participer au groupe transcription en est une. Alors, pour rejoindre une première participation très simple, c'est nous signaler les enregistrements audio des conférences qu'il serait opportun de transcrire, bien entendu concernant les thèmes chers à l'April. Une deuxième participation, c'est relire des transcriptions pas encore finalisées pour s'assurer qu'il n'y a aucune erreur, que l'orthographe et la grammaire sont correctes, améliorer quelques tournures de phrases pour rendre la lecture plus fluide. Et là, je tiens à saluer Véronique qui, presque chaque jour, relit et corrige une transcription. Et si on veut s'impliquer davantage, alors, visiter la page wiki du groupe, s'inscrire à la liste de discussion, peut-être poser des questions si on en ressent le besoin, et se lancer, commencer la transcription de son choix. Je tiens à noter que dès qu'une transcription est publiée, je le fais savoir à la fois sur X et sur Mastodon, deux réseaux sociaux sur lesquels je suis inscrite, afin de faire connaître le site Libre à lire. Les retours sont souvent élogieux, nos transcriptions sont appréciées, compliments que je tiens à partager avec les 80 personnes de notre liste. N'hésitez pas à rejoindre notre groupe, chers auditeurs et auditrices de Libre à vous.
Ah, c'est l'appel du 28 novembre 2023. Alors, pour simplifier les choses, parce que tu as cité pas mal de choses, si les gens veulent rejoindre, et l'action la plus simple à faire au début, c'est tout simplement de s'inscrire à la liste de discussion. Pour cela, les gens vont sur le site du groupe transcription sur lequel on publie les transcriptions, donc qui est simplement librealire.org. Là, vous avez toutes les transcriptions. Vous avez, par exemple, je sais pas combien de transcriptions, mais vous verrez bien. Et il y a une page, il y a un lien contact dans lequel vous pouvez soit envoyer un message à Marudil, soit vous inscrire directement à la liste de discussion de groupe transcription, et vous allez voir comment les gens procèdent, et sans avoir besoin d'envoyer un message forcément. Et puis si à un moment, effectivement, ça vous dit de faire une relecture, là, il y a des transcriptions relativement courtes, hein, d'une dizaine de minutes. Effectivement, quand on transcrit, on relit Libre à vous, c'est un peu plus long, c'est 1h30. Mais voilà, il y a du travail pour tout le monde. Donc le site, c'est librealire.org. Vous allez sur la page contact et vous pouvez rejoindre cette formidable équipe animée par Marie-Odile. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose?
Alors, tu voulais une précision. Le nombre de transcriptions aujourd'hui, donc fin novembre 2023, c'est 1330. Donc il y a de la lecture. Et puis, il faut savoir que transcrire permet de comprendre la pensée des intervenants et des intervenantes qui sont en général des experts dans leur domaine, si bien que grâce à la transcription, l'oral devient écrit, on élargit ainsi la connaissance concernant le logiciel libre et les libertés numériques.
Je ne sais pas si toutes les personnes transcrites sont des expertes, vu que tu as transcrit récemment Jean-Noël Barrot. Je ne sais pas. C'est une blague. C'est pour faire rire Étienne. Je sais que ça l'a fait rire. Voilà.
Non, c'est aussi pour conserver ce qu'il a dit, l'avoir exactement, et au besoin que l'April puisse s'en resservir à un moment ou à un autre. Citant la source exacte.
Oui, effectivement, je te taquinais. Effectivement, il est important aussi de transcrire les ministres pour en garder une trace et exactement quoi. En tout cas, je te remercie, Marie-Odile. Tu restes avec nous parce que si tu as envie d'intervenir à un moment ou un autre, n'hésite pas. Hein. On va simplement passer au sujet suivant. Pof ! Et donc, j'ai ressorti la sonnette du sujet long au Café Libre qui aura lieu le 12 décembre. Donc, on va passer au sujet suivant avec Isabella. Je n'ai pas envoyé l'ordre des interventions, effectivement. Donc Isabella, c'est ma collègue qui est coordinatrice vie associative, responsable projet, et que vous avez aussi l'habitude d'entendre au micro de cette radio, hein, d'ailleurs pas plus tard que la semaine dernière. Donc Isabella, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des projets, la partie plutôt sensibilisation peut-être de l'April?
Oui, donc moi je suis Isabella Vanni, coordinatrice vie associative et responsable projet pour l'April, donc notamment pour la partie sensibilisation. On a parlé tout à l'heure du groupe de travail transcription, mais sachez que le groupe sensibilisation aussi est ouvert à tout le monde, que vous soyez membre de l'April ou pas, que vous soyez des experts incroyables de logiciels libres ou des novices ou des personnes qui souhaitent apprendre, approfondir nos sujets. Et pour participer au groupe sensibilisation, c'est la même procédure. Vous allez sous le site de l'April, vous avez un menu à droite, vous trouvez liste de discussion et vous pouvez faire un message à la liste, vous pouvez vous abonner à la liste d'inscription sensibilisation, faire une petite présentation et c'est parti. Et donc les projets sensibilisation vont être surtout des ressources comme des documents, des pliants, des flyers, des autocollants qui sont des ressources qu'on met normalement à disposition dans nos locaux à l'April, mais surtout sur les stands dans les événements auxquels on participe. On les met à disposition aussi sur un vente libre, une plateforme qui permet de proposer des goodies. Peut-être que Bookie veut présenter un vente libre.
Mais est-ce qu'on les reçoit pour Noël?
Oui, voilà. On nous dit qu'il y a un petit retard en ce moment.
Voilà, il y a quelques retards.
Mais voilà, pour dire que, et bien évidemment, on parle de logiciels libres. L'April promeut aussi la culture libre en général. C'est pas un hasard si nos musiques sont libres, les musiques qu'on diffuse ici à la radio. Et donc, ces ressources sont disponibles aussi en ligne. Donc, vous pouvez les télécharger, vous les imprimer et les imprimer aussi par vos moyens et bien sûr aussi les adapter à vos besoins. Le but, c'est que vous puissiez vous approprier de ces ressources pour faire ce que vous souhaitez. Et parmi les projets qui ont concerné le groupe sensibilisation, j'aimerais parler du projet participatif Nouvel Autocollant, priorité au logiciel libre. C'est un projet que j'ai confié à Thomas Rivoire, qui a été stagiaire pour communication pour l'April de avril août de 2023. Donc, il est pas là avec nous pour en parler. Donc, je vais le faire à sa place. C'est un projet participatif. On essaye toujours de impliquer le plus possible de personnes dans nos projets. On est en association. On est en association aussi parce qu'on aime bien faire les choses ensemble, travailler ensemble, créer ensemble. Donc le projet participatif a commencé donc par un constat. Bon, le constat c'est surtout moi qui l'a fait, mais j'ai eu aussi des retours comme quoi l'autocollant priorité au logiciel libre de l'April était un peu vieillot. Voilà, c'était un visuel pas très sexy comme on dit, et effectivement avec la voilà, je dirais pas le nom de la personne, mais elle est à côté de moi, mais on s'est dit ce serait bien quand même de faire un nouvel autocollant. Et donc la première étape, c'est de recueillir des avis, des remarques, des suggestions pour la refonte du visuel. Ces avis, ces suggestions ont été collectés sur un pad ou bloc-notes en ligne, c'est-à-dire une page qui permet de d'écrire à plusieurs sur un texte en ligne. Il n'y a pas besoin de se connecter. Hein. On va sur un navigateur, on arrive sur la page et on peut écrire directement avec son clavier. Donc c'est la façon la plus directe, la plus pratique pour rédiger un texte en mode brut, sans mise en forme. Ça permet de faire une sorte de brainstorming, si vous voulez, même si pas au même temps. Et là, on a recueilli pas mal de suggestions. Bien évidemment, on a fait un appel sur notre liste sensibilisation. Et ensuite, ces avis et ces retours ont été mis sur une page wiki. Tout à l'heure, on parlait du wiki pour le projet de transcription. Bah, on a des pages wiki, bien évidemment, aussi pour les projets de sensibilisation. La page wiki permet de mieux structurer en fait le contenu et donc de naviguer aussi plus aisément entre les différentes parties. Et à ces moments-là, on a fait un appel à visuels. Eh bien oui, parce qu'on aurait aimé avoir des visuels proposés par nos membres, nos soutiens actifs. On a reçu pas moins de 6 visuels avec plusieurs déclinaisons pour chaque visuel en termes de forme, de couleur. Et ensuite, c'est arrivé le moment de faire l'appel au vote, c'est-à-dire de choisir, en fait, de impliquer un maximum de personnes pour choisir le visuel. Et là, on a utilisé un outil qui s'appelle date.chapril.org, mais c'est un service en ligne libre. D'ailleurs, l'April propose une instance de ce service, mais il y a plein d'instances qui sont proposées, parce qu'en tant que libre, c'est aussi décentralisé. N'importe qui a un serveur, les compétences, peut l'installer, peut le proposer. Et là, aux outils de sondage permet, par exemple, de choisir une date, mais ça permet aussi de choisir, par exemple, une image ou un sujet. Donc, nous, on a mis les images de nos visuels. On a fait des appels au vote sur nos listes, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et ben, il y a plus de 200 personnes, je crois, qui ont exprimé leur avis. Sachez que même cette petite action, je mets une croix sur un visuel qui me plaît, ben, c'est une action de sensibilisation, parce que là, bien évidemment, il s'agit de faire un autocollant qui puisse être vu, qui puisse interloquer les personnes qui le voient, et pourquoi pas lancer une discussion. Donc merci à toutes les personnes qui ont répondu au sondage. Le visuel a été choisi. Bah, il s'agit maintenant de le faire imprimer. Donc ça c'est ma partie. Ça se fait pas trop de façon participative, mais ça va arriver vite.
On peut, parce qu'il est sur le salon web, on peut féliciter Antoine, le visuel a été sélectionné.
Bien vu. Donc c'est le visuel d'Antoine qui a proposé d'ailleurs plusieurs déclinaisons, parce qu'en fait au départ on voulait faire la refonte du logiciel de l'autocollant priorité au logiciel libre. Antoine a aussi proposé d'autres slogans, par exemple logiciel libre, société libre, et peut-être qu'on va en faire même deux versions, parce qu'en fait tout au long de la discussion avec nos membres soutien actifs, bah le slogan logiciel libre, société libre a beaucoup plu. Il y a des personnes qui insistent pour avoir plutôt cet autocollant. Bon, pourquoi s'en priver ? On peut peut-être en prévoir deux. Donc merci Antoine.
Ok, donc ça c'est le premier projet dont tu voulais parler. Je crois que tu voulais parler d'un deuxième projet.
plus qu'un projet, c'est une activité, c'est-à-dire que l'April, pour sensibiliser au logiciel libre au grand public, participe à de nombreux événements qui peuvent être plus spécifiquement de nature libriste. Par exemple, on vient de participer au Capitole du Libre, qui est l'événement libriste majeur en France et qui a lieu à Toulouse chaque année en novembre. On va participer la semaine prochaine au salon professionnel Open Source Experience qui aura lieu à Paris. Et en avril, début avril, il y a les journées du logiciel libre à Lyon, ça c'est pour les événements libristes, mais on participe aussi à plein d'événements différents, toute occasion est bonne pour sensibiliser. Et je souhaitais dire que voilà, j'étais très contente de pouvoir faire une intervention cette année, donc en avril, à l'occasion du rendez-vous EDUC autour de l'éducation éthique et responsable organisée par Universcience, donc à la Cité des Sciences, parce que s'il s'agissait en fait de présenter le logiciel libre et les moyens d'agir auprès d'un public, auprès du personnel enseignant. Et donc c'était l'occasion pour moi qui intervient depuis peu de temps au nom de l'April. Je suis à l'April depuis novembre, mais ça fait 3-4 ans que j'ai fait des interventions en mode conférence. Après, j'interviens sur les stands, mais voilà, les conférences, c'est un peu moins de temps. Et c'était l'occasion justement de reprendre la présentation de logiciels libres, de l'orienter un peu plus vers le public enseignant et de faire aussi des diapos plus précises sur comment s'informer, comment sensibiliser ou trouver des ressources. Bien évidemment, il y avait beaucoup de ressources et de sites de l'April, mais il y avait aussi d'autres sites et d'autres références. Voilà, donc nous, on intervient en tant qu'équipe salariée. Il y a aussi les membres du conseil d'administration qui peuvent intervenir. Il y a d'autres bénévoles. Donc, n'hésitez pas à nous proposer des interventions à Paris, mais aussi partout en France.
Alors, je précise que tu parles d'Open Source Experience, donc le salon a lieu la semaine prochaine, donc si c'est 7 décembre 2023 à Paris, enfin la semaine prochaine, ça dépend de quand est-ce que vous écoutez le podcast, évidemment. Et donc, il y a deux conférences, hein. Il y en a une que tu feras, hein, qui est mieux inclure la diversité de genre pour mieux agir, le cheminement de l'April, et une table ronde qui sera animée donc par Étienne Gonu, qui est là actuellement derrière la régie, et le sujet c'est les collectivités actrices d'une informatique plus libre et plus durable. Donc évidemment, toutes ces références sont sur le site de l'émission libreavoue.org/193, et donc c'est le 6 et 7 décembre 2023 à Paris, et nous aurons un stand, vous aurez l'occasion de nous découvrir, de nous rencontrer si vous voulez évidemment nous rencontrer. Isabella, est-ce que tu avais encore d'autres sujets?
Non, je me tiens prête pour éventuellement réagir à d'autres fois.
Alors si, je crois que tu voulais parler quand même de la mobilisation des organisations locales.
Je voulais pas prendre trop de temps, mais oui.
Non, mais t'inquiète pas, le temps, je le gère. Je regarde, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Chose... De toute façon, le temps que tu prends, c'est sur celui de la présidente. Donc elle est à côté de toi. Donc,
C'est quelque chose à laquelle je tiens beaucoup, la mobilisation des organisations locales. En fait, l'April est une association nationale. On a notre siège donc à Paris, hein, pour être plus proche du centre, des centres du pouvoir. Mon collègue Étienne Gonu vous expliquera plus tard qu'est-ce qu'on fait au niveau de nos actions institutionnelles. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, on est une association, on est 4 salariés, on a beaucoup de bénévoles, mais bon, la France est grande, il y a des personnes qui ont besoin partout d'en savoir plus sur le logiciel libre et de libérer leurs machines. Donc heureusement qu'il y a des bénévoles et d'organisations partout en France. On les appelle GUL, les groupes d'utilisateurs et utilisatrices de logiciels libres. Ce sont de personnes merveilleuses qui se mettent à disposition pour vous aider à installer un système d'exploitation libre, à installer une application, à la paramétrer, à répondre à vos questions. Donc, ils proposent normalement des permanences, soit hebdomadaires, soit mensuelles. Je vous rappelle qu'ils sont des bénévoles, donc ils font ce qu'ils peuvent, mais vraiment aller voir sur l'agendadulibre.org. C'est un site qui permet de référencer à la fois les événements libristes, mais aussi les organisations qui peuvent vous aider à libérer vos machines, ou simplement à savoir plus sur le logiciel libre et la culture libre. Et il y a deux rendez-vous annuels qui nous permettent en fait de mobiliser ces organisations et de faire encore plus de communication sur elles. Et donc il y a une manifestation qui est le Libre en Fête, qui est coordonnée par l'April et qui a lieu chaque année autour du 20 mars, donc autour de l'équinoxe de printemps. Et donc on fait un appel donc à participation et les différentes GUL, mais aussi d'autres associations, médiathèques, clubs informatiques, toute organisation intéressée par ces sujets et qui ont en cœur la promotion au logiciel libre peuvent participer. Ils annoncent leur événement sur l'agenda du libre et il suffit de rajouter un mot-clé pour être référencé sur le site du libre en fait, qui donne aussi des informations sur comment trouver des partenaires par exemple ou des suggestions d'événements. Et ça c'est une manifestation donc qui a été dans la première édition remonte à 2001, donc ça existe depuis plus de 20 ans. Et puis en septembre en fait on participe à la fête des possibles qui est organisée par un autre collectif qui est le collectif pour la transition citoyenne, et c'est là pour le coup ce sont des initiatives qui ne concernent pas que le logiciel libre mais qui concernent la justice sociale, l'écologie, c'est plus ample, ce sont des initiatives concrètes pour faire du monde un lieu plus juste, plus solidaire, ils nous ont contactés justement pour pouvoir avoir aussi un axe logiciel libre, culture libre, et là aussi en fait on fait appel aux organisations locales et aux GUL, groupes d'utilisateurs, utilisatrices de logiciels libres, pour proposer à un public qui est potentiellement curieux et intéressé par nos sujets, de proposer des événements dans le cadre de cette manifestation. Donc on est très à l'appui, on est très contents et contentes de participer aussi à cette manifestation.
Alors je précise que tout à l'heure tu as dit que le centre de pouvoir était à Paris. c'est un mini joke que Libre en fait a été lancé en Bretagne en 2001 en fait, hein, la première édition a eu lieu en Bretagne dans un magasin à l'époque déjà de vente de produits bio, etc. Donc c'était vraiment c'est un projet qui dure depuis très très longtemps. Et avant de faire la pause musicale, une petite précision, parce que je crois qu'on l'a pas dit, la quasi-totalité des activités de l'April peuvent être menées par des gens qui ne sont pas membres de l'April. C'est-à-dire que le groupe transcription, vous pouvez rejoindre la liste de discussion sans être membre de l'April. Le groupe sensibilisation également, les personnes qui font des traductions également. Voilà, bien sûr, on vous encourage si vous le souhaitez devenir membre de l'April, mais en tout cas la quasi-totalité de nos activités sont ouvertes au contraire à toute personne qui a simplement envie de contribuer un petit peu avec son temps et ses talents. Donc on va faire une pause musicale avant de continuer cette discussion. Alors la pause musicale a été choisie par Julie, qui est toujours avec nous. Nous allons écouter Fluctuation par Joseph Curwen. On se retrouve dans 4 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
Nous venons d'écouter Fluctuation par Joseph Kerwin, disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions, CC by SA. Donc je précise qu'en fait Joseph Kerwin c'est le nom d'artiste de Yann Colette, un spécialiste de la musique assistée par ordinateur. Et d'ailleurs il était intervenu dans Libre à vous pour parler des logiciels libres pour l'audio et la musique assistée par ordinateur. C'était l'émission numéro 38 et donc pour retrouver les références et écouter le podcast c'est libreavoue.org/38.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Alors, nous allons poursuivre notre sujet principal au cœur de l'April, toujours en présence donc d'Isabella Vanni, Magali Garnero, Marie-Odile Morandi qui doit être toujours à distance, Julie Chaumard qui interviendra peut-être tout à l'heure, et Étienne Gonu qui interviendra tout à l'heure pour parler de justement des aspects institutionnels. Mais là, on va enchaîner avec... Magali, dite bouquinette. Alors, tu disais récemment dans une après une émission qu'on était les rares personnes à t'appeler Magali alors que tout le monde t'appelle bouquinette.
C'est vrai.
Bon, ben c'est vrai que voilà, on se connaît un peu plus que d'autres personnes. Mais alors, pourquoi bouquinette ? C'est quoi ton métier en fait ?
Alors, je suis libraire et je fais moins d'1m60, donc book, livre, épinette, c'est petit, donc.
D'accord. Alors, tu es membre de l'April depuis longtemps, mais tu as accédé à un poste récemment, il y a moins d'un an, il y a un an, voilà, le poste de présidente. alors que tu n'es ni informaticienne, ni juriste, ni responsable politique.
Non.
Alors, je sais pas pourquoi j'avais ça dans mes notes, mais je pense que c'est un extrait d'un de tes postes. Donc, comme quoi on peut être présidente de l'April, on peut évidemment être actif et active à l'April sans être une personne qui fait de l'informatique ou autre, ou des affaires publiques. Donc, ça fait un an. Comment tu te sens un an après ?
Frigorifié.
Ah, alors là, c'est le studio. Je précisais. Voilà. Je, alors que bon, il fait à peu près bon au studio, mais je crois qu'on n'a pas la même, effectivement, résistance. En tout cas, là, en tout cas, je précise vraiment que si un jour vous avez l'occasion de venir dans le studio, il est tout beau, là, il est tout gris, etc. Je vous en parlerai d'ailleurs à la fin de l'émission parce que vous aurez l'occasion sans doute de pouvoir visiter le studio. Et Étienne me précise que si tu veux avoir chaud, tu vas en régie parce qu'il fait très chaud en régie.
J'arrive.
Voilà. Donc, à part que tu es un peu frigorifié, que tu as froid, comment ça s'est passé ? Enfin, c'est quoi être président de l'April, en fait, finalement ? C'est quoi le... En tout cas, c'est comment toi, tu as vu ce rôle-là ? Parce qu'on voit ce rôle de façon très différente, sans doute.
Alors, quand je suis devenue présidente, je m'étais fixé des objectifs. Je voulais déjà m'intéresser plus au dossier institutionnel et travailler un peu plus avec Étienne. Chose que j'ai bien fait cette année, puisque j'ai même fait un compte-rendu récapitulatif du projet de loi contrôle parental. Je me suis intéressée au SREN, le projet de loi sécurisé, régulé l'espace numérique, mais aussi le DSA, DMA, enfin bref, tous ces acronymes que les politiciens
donc,
adorent.
DSA, DMA ?
Digital Service Act et Digital Market Act.
Merci.
Voilà. Merci Étienne de m'avoir formé, en tout cas de m'avoir donné tout, répondu à toutes mes questions. Donc voilà, je m'étais vraiment promis de faire ça et je l'ai fait. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus passionnant à faire, mais je l'ai fait et du coup, plus on s'y intéresse, plus on se rend compte qu'on sait pas grand chose et plus ça amène de questions et donc plus ça déroule des discussions avec plein de gens, y compris des gens qu'on connaît pas sur les festivals comme le Capitole du Libre dernièrement. Voilà, donc ça c'était mon premier objectif. Mon deuxième objectif c'était me tenir au courant des groupes de travail de l'April, parce qu'on a parlé de pas mal de groupes déjà, transcription et sensibilisation, mais il y en a plein d'autres qui sont quand même assez actifs, genre éducation, traduction et un mon préféré, diversité. Donc je lis beaucoup plus ce qui se passe sur les mailing lists de ces groupes-là. Et mon dernier objectif, c'était aller à la rencontre des libristes. Et j'ai mis en place le fameux tour des gules, puisque je n'avais pas le droit de mettre comme nom de cet événement « Engulez-vous ». Donc j'ai mis en place le tour des gules et je suis partie.
Rappelle-nous ce que c'est pour que les gens comprennent ce que c'est qu'un gule.
Alors un gule, c'est un groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres. Il y en a un peu partout en France, mais il y en a aussi dans le monde en entier. Et on a beau faire appel à eux pour les événements, on les connaît pas forcément. Et je me suis dit, tiens, si j'allais les squatter pour les rencontrer. Et puis du coup, parler d'eux en faisant des comptes rendus. Donc j'ai commencé mon récit de voyage sur un an de tous les gules que j'avais rencontrés. J'ai commencé à Beauvais, je suis allée à Rennes, je suis allée à Nantes, je suis allée à Écomois, je suis allée à Choisy-le-Roi, je suis allée en Bretagne du Nord, je suis allée aussi à Toulouse, je suis allée à Lyon... Je suis retournée à Toulouse et je sais que je vais aller à Montpellier, je vais aussi aller à Marseille, je vais aller à Annecy.
Alors, si tu vas à Montpellier, je précise à Antoine, sois présent à Montpellier pour qu'au moins il y ait du monde à l'apéro à Montpellier. Et si tu vas à Montpellier, la dernière fois que j'y suis allée, Antoine était là, donc...
Si je vais à Montpellier, je vais appeler tellement de gens qu'il n'y aura pas assez à boire et à manger. Mais oui, je prévois d'aller partout.
Attends, excuse-moi, parce que sur le salon web, alors DS, je vois qui c'est DS, d'accord, okay, j'ai compris, c'est les initiales d'un membre qui dit voilà le tour des Gules, la visite à Lannion et Bégard a été un plaisir, malheureusement trop court, merci. Alors
c'est vrai que c'était trop court.
Voilà, je peux dire au moins le prénom, c'est David, je suppose. Voilà, donc effectivement, donc un tour effectivement de tous ces groupes, donc en France peut-être après, en Suisse, en Belgique et ailleurs.
Bah si on m'invite, j'y vais. Hein.
Voilà, il faut donc n'hésitez pas à l'inviter. Après, il y a d'autres membres actifs, personnes actives de l'April qui peuvent aussi effectivement faire ce genre de déplacement, hein, pas que la présidente évidemment. Donc n'hésitez pas à nous appeler. Hein. Et donc DS confirme sur le salon web que c'est bien David. Et c'est alors quand tu fais ces déplacements, c'est quoi? C'est une rencontre autour d'une conférence ou c'est un événement juste festif? Comment ça se passe en fait?
Alors ça dépend des endroits qui me reçoivent. Ça a pu très bien être un apéro en mode éclair, même si c'était vraiment beaucoup de transport pour juste boire un coup. Mais ça peut aussi être le passage du film LOL. Logiciel libre, je sais plus, mieux que moi, ça Fred.
Donc le film, c'est LOL, logiciel libre, une affaire sérieuse, qui a été donc, qui est sorti en 2019 de mémoire, même s'il a été tourné avant, dans lequel tu interviens,
on est plusieurs à intervenir,
voilà. Et qui est alors c'est pas parce qu'on intervient que ce documentaire est de qualité, hein, c'est que parce que simplement les personnes qui l'ont réalisé ont vraiment fait un travail à la fois d'écriture et de montage aussi, vraiment très bien. Et il est diffusé, en ligne, hein, donc on mettra la référence, hein, sur la page de l'émission, donc libreavoue.org/193.
Voilà, je peux aussi faire des conférences. J'ai aussi animé une petite table ronde avec deux anciens vice-présidents de l'April quand je suis allée à Toulouse. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai participé à un festival de réparation quand je suis allée du côté des Comois. Bref, j'ai aussi fait une table ronde d'éducation quand je suis allée à Beauvais. Bref, je m'adapte. Je m'adapte vraiment à ce que vous voulez organiser et j'ai toujours quelque chose à dire, donc c'est facile.
Alors là, c'est un Lyonnais, je crois de me souvenir, Mumane, qui nous dit « petite par la taille, mais grande... » non, il est de Valence, il n'est pas de Lyon, il est de Valence, excuse-moi. Qui dit sur le salon web « petite par la taille, mais grande par le cœur ». Donc j'en profite pour rappeler que si vous voulez intervenir vous aussi sur le salon web, hein, vous allez sur causecommune.fm, bouton de chat et salon libre à vous, ou directement sur le site libreavoue.org, il y a la zone de chat qui s'affiche. Quelles sont les questions en général que tu as des gens que tu vas voir concernant l'April ou ton activité Est-ce que des choses récurrentes qui reviennent?
Alors, les dossiers de l'April, on me demande souvent ce que fait l'April et de plus de détails. C'est pour ça que je fais souvent les yeux doux à Edienne pour avoir un maximum d'informations.
Avec son consentement?
Ah, les yeux doux, c'est de loin, il n'y a aucune agression. Hein. Voilà. Donc ça, sur ce que fait l'April, quels sont ses dossiers, futurs t-shirts? Ça revient hyper souvent.
T-shirt, on y vient juste après. On revient sur la partie institutionnelle. Toi, c'est pas ton truc, l'institutionnel. En fait, c'est pas le truc de grand monde, hein. Franchement, c'est vrai qu'il y a un côté chiant, mais qui est essentiel. Et qui demande aussi du temps pour assimiler pour le restituer. Est-ce que c'est pas quelque chose qui te stresse, ou au contraire, t'aimes bien ça, finalement? Cette plongée dans l'institutionnel, est-ce que ça t'a plu ou pas, finalement, en fait?
Alors, j'adore en lire. J'adore écrire, j'ai horreur d'en parler. Ça se voit très bien quand je fais les conférences, parce que j'ai toujours un plan hyper bien préparé. Mais quand plus j'en parle et plus je m'énerve parce que il y a pas de répondant. Autant nous on fait des trucs extraordinaires, on contacte des gens, des députés, des sénateurs, mais en face, j'ai souvent l'impression qu'il y a du silence et surtout une incompétence incroyable. Je disais dernièrement, il faut pas penser au complot, des fois l'incompétence suffit et c'est vrai que quand je parle des dossiers institutionnels, j'ai tendance à
m'énerver. Quand tu parles d'incompétence, tu parles des politiques.
Bien sûr.
Ah oui, d'accord, OK.
Des politiques qui vont légiférer sur des choses qu'ils ne comprennent même pas eux-mêmes. Donc ils pensent bien faire, mais qui souvent font soit de la merde, soit des trucs approximatifs qui vont être liberticides pour le logiciel libre. Toi, je suis déjà en train de m'énerver.
Oh, si tu t'énerves comme ça va, ça reste... donc effectivement, c'est pas ce que tu préfères, mais c'est ce qui est demandé, parce que effectivement, c'est aussi la chose qui est sans doute la plus difficile à suivre, hein, pour les personnes extérieures, parce que finalement, si on compare par rapport tout à l'heure à une action de sensibilisation comme l'autocollant priorité au logiciel libre, finalement, ça revient effectivement à donner son avis par rapport à un graphisme qui est proposé, par rapport à un visuel. Et donc c'est relativement rapide et tout le monde peut avoir un avis là-dessus en fait. Et il suffit ensuite juste de cliquer, de dire qu'effectivement de suivre un dossier institutionnel, faut lire les communiqués de l'April ou ceux d'autres structures, même en écoutant Libre à vous. Alors on essaie justement dans Libre à vous d'aborder ces projets de loi justement de façon la plus accessible possible, mais ça reste quand même des choses qui sont pas accessibles par nature, donc c'est un peu compliqué, mais c'est ce qui est en tout cas demandé quand tu vas voir les gens, quoi. Donc il y a ça, vas-y, oui.
Après, il y a un petit côté jouissif quand des amendements qui sont proposés par l'April sont repris par des sénateurs ou des députés. Là, on se dit, on n'a pas pissé dans un violon, ils nous ont entendu, et hop, quand le mot logiciel libre arrive dans la loi, comme il y a eu un petit moment, ben, c'est la fête, quoi, c'est champagne et compagnie. Donc, c'est pas que négatif, il y a quand même des moments de joie qu'on partage.
Alors, ça me fait penser qu'il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, il est plus facile aujourd'hui d'essayer d'avoir des contacts avec des responsables politiques qu'il y a quelques années, hein, parce que notamment, ils sont pas mal présents sur des réseaux sociaux, mais aussi par courriel, etc. Donc, toute personne qui a une expertise, ou en tout cas qui a même un avis simplement sur un projet de loi, il faut pas hésiter à contacter les responsables politiques. Alors, c'est pas forcément la responsable politique qui va lire le courriel, ça peut être une assistante ou un assistant, mais en tout cas, voilà, il faut pas hésiter parce que nous-mêmes, en tant qu'action de l'April, on a contacté des gens, des fois, sans les connaître, et puis on a eu des retours, donc ça peut être effectivement intéressant à faire. Je précise d'ailleurs que comme on parle un peu de dossier institutionnel, je précise à Étienne qui peut se préparer pour en parler un petit peu tout à l'heure, mais effectivement rapidement. Donc il y a cet aspect institutionnel, et tu dis que le deuxième sujet, bon, ça, qui m'étonne pas parce que à la prime on est très fort dans l'institutionnel, et puis effectivement notre grande qualité à côté, c'est notre qualité de t-shirt, notamment des couleurs de t-shirt. Donc on te demande lequel sera le prochain t-shirt de l'April.
Exactement, on me l'a demandé plusieurs fois, donc à chaque fois je dis on va écouler les stocks qui restent avant de penser à autre chose.
C'est ça aussi, oui. Tu devrais venir en fait dans ta valise avec les t-shirts de l'April pour écouler le stock.
Oui, mais si j'écoule, ça sera en cadeau, hein, franchement. Ça ira plus vite que de les vendre. Par contre, dans le futur t-shirt, bon, y a beaucoup de discussions en ce moment. Je peux en parler, Isa ? Tu peux aussi en parler avec moi, mais
je peux rebondir.
Ouais. Ben, faire des goodies, c'est finalement pas si hyper écolo que ça. Et on réfléchit à faire plutôt une sorte de d'autocollant à coller sur des t-shirts que les gens ne mettent plus parce qu'ils les ont trop vus, plutôt que de faire des t-shirts soi-même.
Oui, donc c'est une idée qui circule. On fera à nouveau, on appellera, on demandera à nos membres et soutiens actifs leur avis. Parce qu'il y a déjà un bénévole qui m'a dit oui mais moi j'ai pas de fer à repasser donc voilà, ça c'est un geek, hein, il faut le dire, c'est il trouve toujours n'est-ce pas, toujours la petite bête, mais voilà, effectivement ça peut être une idée pour faire quelque chose de plus déjà de fabriquer en France, et ça permettra aussi par exemple de l'appliquer sur un t-shirt qui vous plaît, parce que les visuels ne plaisent pas forcément à tout le monde. Le thermocollant ne sera pas énorme, sera plutôt petit, simple, donc vous pouvez de cette façon customiser un t-shirt, une casquette ou autre vêtement et tissu. Voilà.
Et après, si on peut se balader avec un mug rempli d'eau et des éponges pour faire des tatouages aux gens, je pense qu'on peut aussi se trimballer avec un petit fer à repasser.
Ça existe, les petits fer à repasser, je crois. Oui, je les ai vus dans les tutos couture.
Voilà, il nous faudra juste de l'électricité, mais ça, c'est pas incompatible sur un stand.
Il y en a encore pour le moment.
Oui, pour le moment, effectivement. Votre échange me fait penser que sur la page de présentation de l'April, on a mis récemment en ligne une page qui est une association consciente de ses responsabilités. Parce qu'évidemment, au-delà de notre militantisme et des valeurs qu'on essaye de porter, on a effectivement, nos activités ont forcément un impact social, sociétal, environnemental et autres. Et donc, on y réfléchit à chaque fois. Donc là, tu parles effectivement des t-shirts. Il y a plein de sujets, effectivement, qui tournent autour de ça, des fournisseurs plus éthiques. Voilà, c'est une réflexion qu'on a et que donc peut-être qu'il n'y aura pas effectivement les t-shirts habituels de l'April la prochaine fois, mais en tout cas on a cette réflexion là, et donc n'hésitez pas aussi à nous rejoindre pour porter cette réflexion dans d'autres domaines. Voilà, je mettrai aussi le lien sur la page consacrée à l'émission.
Et on n'a pas une liste dédiée à ça, donc les personnes nous contactent où?
Ben, ils nous envoient par l'adresse de contact en général, et puis voilà quoi.
Donc, oui, il y a un formulaire de contact.
Il y a un formulaire de contact sur april.org en général, et qui et on y répond. Donc voilà, donc, institutionnel, t-shirt. Donc ça c'est la partie des donc d'aller à la rencontre finalement des libristes. Et dans ta découverte des groupes de travail, donc est-ce qu'il y a des groupes qui t'ont qui t'intéressent plus que d'autres, ou des groupes que tu aimerais voir peut-être plus actifs?
Alors, dans les groupes que j'aimerais bien voir un peu plus actifs, il y a le groupe Diversité. C'est un groupe où, qui existe depuis un long, 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 long moment, puisque moi, je le connais depuis que je suis arrivée, qui parle de, justement d'avoir plus de diversité. Parce que si on est tous... Alors là, je vais dire un truc bizarre, mais si on est tous des hommes blancs, hétéros, informaticiens, c'est beaucoup moins riche que s'il y a des hommes, des femmes, des informaticiens, des libraires, des gens qui font la radio, ainsi de suite. Donc plus on est divers, et mieux c'est. Et plus c'est enrichissant, plus les arguments qui seront échangés seront intéressants. Donc ce groupe Diversité, je l'aime beaucoup, je le suis, j'en suis l'animatrice depuis aussi 2012, je crois, et j'aimerais bien le voir plus actif. On a fait un peu appel à lui quand on a voulu réécrire la charte de bonne conduite, parce que tu parles de la page... Le code de bonne conduite, effectivement. J'avais noté charte, tant pis. Code. Mais effectivement, en ce moment...
Le code de conduite, tout simplement, excuse-moi. Oui, c'est même pas bonne conduite, c'est le code de conduite.
Depuis que je suis présidente, je vois de nombreuses actions à ce niveau-là où on remet les choses en question, on essaye d'être plus accueillant. Ne serait-ce que le code de bonne conduite. En ce moment, on est en train de modifier les statuts de l'April. Donc, c'est un travail qui est en cours. Donc, voilà, on est en train de se déconstruire pour être plus ouvert encore à toute personne, que ce soit des informaticiens, des non-informaticiens, des femmes, des hommes, des gens non-binaires. Voilà, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup en ce moment. Et j'avoue, ça me plaît d'être actif dans ce genre d'action-là.
Alors, j'ai l'air précisé, parce que tout à l'heure, dans la première interview, on avait Lucie Anglade, hein, qui a parlé en fin d'émission par une excellente question de Julie sur l'atelier mixité choisie autour de Python. C'est qu'on a une page, l'April, où on sous-loue de la place à nos amis d'Easter Eggs, et on peut accueillir des réunions. Donc, on a une page qui décrit les conditions pour accueillir les réunions, notamment le nombre de places, etc. Et on a une partie où on peut accueillir des réunions, alors, soit en mixité choisie, soit en non-mixité choisie, vu que c'est pas la même chose, et j'ai échangé avec Lucie justement sur cette terminologie-là récemment. Donc voilà, et donc sur la page que je mettrai aussi en référence, il y a un certain nombre d'actions qu'on mène, notamment dans le cadre de l'émission Libre à vous, hein, le simple fait d'avoir une politique explicite visant à promouvoir les femmes libristes dans l'émission, c'est-à-dire que c'est un travail qu'on fait pour chaque émission, ce qui nous permet effectivement de ne pas se retrouver qu'avec des hommes qui interviennent, parce que quand on fait pas cet effort-là, on se retrouve en fait très facilement qu'avec des hommes, vu que c'est les intervenants principaux. Et je vais rappeler même si je l'ai déjà dit tout à l'heure, que d'ailleurs on va faire un retour d'expérience, en tout cas dans l'étape où on est actuellement. Donc c'est mardi, je ne sais pas si c'est mardi, c'est le 7, donc est-ce que c'est le jeudi. C'est le jeudi 7 décembre, donc c'est Isabella qui fera une conférence donc à Open Source Experience à Paris, et intitulée « Mieux inclure la diversité de genre pour mieux agir, le cheminement de l'April ». Alors là, ça sera orienté évidemment sur la diversité de genre, mais on inclut évidemment dans nos réflexions toutes les diversités, c'est évidemment pas uniquement que la diversité de genre. Donc il y a ce groupe-là et d'autres groupes ou non. C'est alors je rappelle encore une fois que la quasi-totalité de nos groupes de travail sont ouverts aux personnes extérieures, donc il suffit simplement d'aller sur le site de l'april.org, retrouver la page du groupe de travail et il y a une inscription sur la liste de discussion. Alors peut-être que on va solliciter Étienne vu qu'on a parlé un petit peu d'institutionnel et pour être sûr de ne pas oublier parce que le temps avance et le soutien à l'April, notamment, alors, comme je dis, il n'y a pas besoin d'être membre pour nous soutenir, mais pourquoi beaucoup de membres nous soutiennent, et on le voit lors des rencontres que tu fais, et nous soutiennent financièrement, c'est que ça permet de payer des personnes pour agir sur, au quotidien sur un certain nombre de sujets, et donc notamment Étienne, qui est tout simplement chargé des affaires publiques à l'April. Alors, les affaires publiques, c'est un titre un peu ronflant, mais assez traditionnel, c'est celui qui va porter et prêcher la bonne parole auprès de Jean-Noël Barrot et autres responsables. J'ai rien contre Jean-Noël Barrot, en plus. Franchement, c'était une petite blague pour te faire sourire tout à l'heure. Alors, c'est quoi ton travail, Étienne? Et même si on en a déjà parlé dans plusieurs émissions, quels sont les sujets actuels actuellement chauds?
Déjà, effectivement, c'est de rentrer dans les centres de pouvoir pour influer et faire prospérer le logiciel libre. C'est vrai que le poste d'affaires publiques, on touche à beaucoup de choses. Bon, le premier auquel on pense, ça va être d'agir sur les projets de loi. Par exemple, Magali a mentionné le projet de loi sécuriser et réguler l'espace numérique, hein, projet de loi SREN. Alors là, le logiciel libre n'était pas au centre des sujets, parce que ça cherchait plus à réguler les relations entre les utilisateurs, utilisatrices et les grandes plateformes. Mais c'était un projet de loi très très large, hein, qui parlait de système de vérification d'âge pour accéder aux sites pornographiques, enfin pour système de vérification d'âge pour les sites où il y a du potentiellement du contenu pornographique, donc c'est autre chose en plus à définir, qui sont de filtres anti-arnaque, etc., dans les, au niveau des navigateurs web. Donc parmi les points là, qu'on peut citer, c'est effectivement sur ce filtre anti-arnaque, au début on a craint que les navigateurs web, dont Firefox par exemple, qui est un logiciel libre, soient contraints de bloquer des contenus. Bon, et voilà, il y a eu fort heureusement, par suite d'un amendement, ça a été minimisé, et les navigateurs n'auront qu'un filtrage à mettre en œuvre, qui sera donc dépassable, et pas un blocage pur et simple, un blocage administratif des sites web. Un amendement aussi avait été porté par le groupe Europe Écologie Les Verts, et puis suivi ensuite par la France Insoumise, pour exiger une transparence sur transparence des systèmes de vérification d'âge. Après tout, puisque si la représentation nationale décide que c'est l'intérêt général d'avoir ces systèmes, eh bien il semblerait assez logique que ces systèmes puissent être transparents pour que le public finalement puisse en assurer le bon fonctionnement. Cet amendement a été rejeté par la majorité, et donc ensuite par l'Assemblée. On peut également noter le rejet de l'obligation d'interopérabilité des réseaux sociaux, qui est porté historiquement par nos amis de la Quadrature du Net. On attend donc sur ce projet de loi, on attend la réunion de la commission mixte paritaire. Donc c'est à la fin de chaque navette parlementaire, que ce soit un projet ou une proposition de loi, il y a une commission mixte paritaire qui réunit pour moitié des membres du Sénat, pour moitié des membres de l'Assemblée nationale, pour trouver un texte de compromis entre les positions des deux chambres. Donc elle doit se réunir, mais dans un contexte particulier, qui est celui que la Commission européenne a tiré à boulet rouge sur ce projet de loi.
Étonnant.
Oui, alors la France semble abonnée. Alors je ne sais pas comment ça se passe dans les autres États européens, mais régulièrement la France prend un peu les devants et se sent, voilà, cherche à tirer un petit peu se voit comme moteur des politiques européennes. Bon, la Commission européenne lui a rappelé qu'en fait elle doit quand même respecter la législation européenne notamment. Donc une lettre assez énervée de Thierry Breton à Jean-Noël Barrot et au gouvernement français. Donc voilà, on va voir un peu qui pointait notamment des incompatibilités entre différentes dispositions du projet de loi et le Digital Services Act et le Digital Market Act, qui sont des règlements européens. Donc on verra ce qu'il en sort. Ce sera pas avant, a priori, janvier, voire février plutôt, étant donné les délais, janvier ou février 2024. Je précise peut-être qu'on a reçu le 7 novembre dans Libre à vous Mozilla France, la Quadrature du Net et ACT UP Paris, qui sont donc trois associations qui ont agi sur ce projet de loi. Donc dans l'émission Libre à vous 190, j'ai mis le lien en référence. Et vous retrouvez aussi en référence notre actu de bilan, sur les points qui nous concernent un peu plus directement sur ce projet de loi.
Écoute, merci Étienne. Alors, je voudrais pas se zapper la pause musicale d'après, parce que je l'ai choisi pour Étienne, justement. Donc, on va respecter les horaires. Il nous reste, peut-être 1 minute 2. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur ce qu'on vient de dire, Magali?
Quelque chose que j'avais pas prévu quand je suis devenue présidente de l'April, c'est qu'on me mettrait derrière le micro à la radio hyper souvent.
Alors, comme tu le dis, on a l'impression en fait qu'on te force, mais c'est plutôt toi qui prends plaisir à venir, et nous on a très plaisir que tu viennes, effectivement. Alors c'est vrai que comme tu l'as dit, t'aimes pas parler.
J'adore parler derrière un stand.
Voilà, t'aimes d'ailleurs parler derrière un stand, si possible derrière un stand de libraire aussi.
Plus souvent de libriste que de libraire.
Plus souvent de libriste que de libraire. Ah, c'est vrai qu'il y a peut-être moins de stands.
On en fait plus de stands en librairie.
On fait plus de stands, d'accord. Parce que j'avais vu des affiches dans le métro sur le salon des livres de jeunesse qui arrivait bientôt, je crois, à Montreuil.
Oui, mais j'y vais pas, c'est loin.
D'accord.
Non, c'est pas loin, Genève. Si on m'invite en tant que présidente, j'y vais.
Où ça?
À Genève.
Ah, à Genève. Ah bah, tu pourrais rencontrer Isabelle Collet, qui habite Genève et qui est une spécialiste notamment des questions de genre, informaticienne, et qu'on a déjà eu dans l'émission. Alors, je l'ai pas en tête, l'émission, avec Stefano Zacchiroli. Vous irez sur libreavoue.org et vous chercherez Isabelle Collet. Écoutez, on va conclure avec, sans doute avant de faire, au moins qu'Isabella ait quelque chose à rajouter. Non. Alors sur le salon web, est-ce que vous avez une dernière question ou une réaction? Je vois que Marie-Odine nous précise que la lettre dont tu as parlé, Étienne, était adressée en fait à Madame Colonna, qui doit être la ministre en charge des affaires européennes, je pense. D'accord. Jean-Noël Barrot étant le ministre en charge du numérique, et encore une fois, on n'a rien contre lui, en tout cas, en tant que personne, hein, c'est par rapport...
On le connaît pas.
Voilà, on le connaît pas, en plus, donc, de toute façon, voilà.
Je peux juste mentionner très rapidement ce que tu me parlais. Vas-y. De l'open source expérience. L'April participe, il est membre du jury du territoire numérique libre depuis sa création, donc depuis 2016. Et donc, la semaine prochaine, voilà, moi, je représente l'April au sein de ce jury. On va se réunir lundi. Et je crois que c'est le 6 ou le 7, j'ai pas la date. On va remettre ces labels aux collectivités qui offrent pour le logiciel libre.
Ok, bah écoute, c'est nickel. Je sais pas qui tape au clavier dans le micro, mais en tout cas, on entend quelqu'un taper au clavier. C'est peut-être Marie-Lille, je sais pas ce qu'il dit. Marie-Lille, tu es toujours avec nous?
Oui, tout à fait.
Ah, d'accord, donc mais c'était toi. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose?
Non, je viens de dire que. Je viens d'écrire que Barrot a les oreilles qui sifflent. Il vient de faire.
Tu sais, je pense qu'ils ont les oreilles qui sifflent bien pire avec bien d'autres personnes. Bon, ben en tout cas.
Merci.
Ben merci Marie-Lille en tout cas d'avoir participé. Nous referons bien sûr un sujet au cœur de l'April courant 2024, hein, parce que là bientôt on approche de la fin de l'année, peut-être d'ailleurs pour la 200e. Je sais pas ce qu'on va faire pour la 200e, hein, qui aura lieu en janvier ou en février. Donc merci à vous, hein, puis
merci à toi pour l'animation.
Ben rien, avec plaisir. Ben vous restez avec nous pour la suite, notamment la pause musicale et une de vos chroniques préférées qui va arriver après.
Ah, hein. Oui.
Nous allons donc faire une pause musicale. Alors, nous allons écouter Arcane par Cloud Kicker. C'est un des morceaux favoris de mon collègue Étienne. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
Arcane par Cloud Kicker, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org.
Libre à vous,
libre à vous,
libre à vous.
L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune,
puis en podcast.
Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre par la pituite de Luc qui a été enregistré le thème du jour, la vérité cachée de l'informatique merdique.
Je discutais récemment avec des apriliens de mes malheurs d'utilisateurs d'Office 365. Ils m'ont suggéré d'en faire une chronique parce qu'ils avaient besoin d'une petite update sur les bonnes raisons de se moquer de Microsoft. Ils en sont restés à l'écran bleu, or Windows a progressé, ils ne plantent plus du tout comme ça aujourd'hui. Mais désolé, finalement je ne vais pas vraiment le faire, l'exercice est trop douloureux. Pourtant, il y a de la matière. On m'avait dit, il y a des années, parole de non-libriste, que quand même, Office 365, c'était impressionnant. C'est sûr que je suis impressionné. On sent que ça fait tout et son contraire, que c'est blindé de possibilités incohérentes, trop superficielles, mises en forme de façon inepte, dotées d'UI imbitables, et que c'est globalement non fiable. C'est comme si MS avait construit une usine à gaz pour les gouverner toutes. Ce qui m'impressionne particulièrement, ce n'est pas tant que c'est proprio et que ça pompe les données des utilisateurs, mais qu'en plus, c'est incroyablement mal branlé. La question que je me pose, c'est comment ont-ils pu en arriver là? Peut-être que depuis que Balmer a psalmodié Developers sur scène en 2000, les RH du groupe ont été traumatisés au point qu'ils n'ont jamais mis à jour leur politique de recrutement de peur que ça se reproduise et n'ont donc personne pour faire de l'UX. Sinon, comment expliquer qu'une boîte aussi riche, peuplée de gens probablement pleins de talents, parvienne à valider des solutions aussi foireuses? J'aimerais bien être une petite souris, voire une punaise de lit, lors de ces réunions où les comités directeurs valident des projets bancals. Mais c'est facile de toujours taper sur Microsoft, et en tant qu'usager des transports franciliens, je peux témoigner qu'il y a au moins un monopole qu'ils n'ont pas. J'ai ainsi tenté de me connecter au Wi-Fi SNCF du réseau RER. Nos impôts ont servi à mettre ce système en place, ce machin a été voulu, réfléchi, une solution logicielle a été trouvée, des gens l'ont déployé, testé, validé. Et ben, quand on se connecte, on doit remplir un formulaire comportant un calendrier pour enregistrer sa date de naissance. Or, il s'affiche à la date courante, et la seule façon d'interagir avec est de dérouler les semaines une à une. Comme je suppose que le truc est là pour faire comme si on pouvait s'assurer que les utilisateurs sont majeurs, ce qui est déjà complètement con, il faut cliquer 936 fois pour pouvoir s'inscrire. Le côté positif est que ça permet de s'occuper quand son train est en retard. Sur le RRC, certaines stations ont un quai bordé de deux voies. Si l'une est prise, le train suivant est annoncé sur la seconde, mais le temps qu'il arrive, la première voie est libérée et donc le quai est systématiquement changé à l'approche du train. Il ne faut donc avoir aucune confiance dans l'affichage du train qui change d'avis 3 minutes avant l'échéance. Mais ce n'est pas tout. L'annonce des trains courts se fait au moment où on voit les phares du train en approche. Les développeurs de la solution ont dû penser que dans les specs fonctionnels, « court » était un verbe et non pas un adjectif. Beaucoup de touristes espèrent rejoindre le château de Versailles depuis cette ligne, pas sûr que tous y parviennent. J'ai donc pas mal réfléchi à comment des équipes projets parviennent à pondre des trucs aussi absurdes. J'ai une hypothèse qui permet de fonder une nouvelle théorie du complot. J'avais pointé dans une ancienne chronique à quel point surveiller son prochain était l'opportunité d'une incroyable poilade. On peut les voir chuter, se cogner, être stupide. Oui, mais il faut quand même attendre les meilleurs moments. Et s'il existait un complot, non pas pour contrôler le monde, mais pour se foutre de sa gueule? Et s'il existait une puissance clandestine, probablement extraterrestre, dont la civilisation était tellement avancée que leur existence ne présenterait plus aucun enjeu ni frustration? La seule chose qui les ferait encore vibrer, ce serait de se foutre de la gueule des êtres inférieurs que nous sommes. Vous en pensez ce que vous voulez, mais pour moi, ça expliquerait beaucoup de choses.
Nous venons donc d'entendre la pituite de Luc. Notre émission, nous approchons de la fin de l'émission, nous allons terminer par quelques annonces. Chaque premier vendredi du mois, la radio propose une soirée radio ouverte au studio donc de Cause Commune, l'occasion de rencontrer l'équipe et de découvrir les studios. Donc la prochaine radio ouverte aura lieu vendredi 1er décembre 2023 à partir de 19h30 et il est probable que dans l'après-midi, il y ait des numéros spéciaux, des émissions spéciales, notamment dans le cadre de la journée de lutte mondiale contre le sida, donc le 1er décembre 2023. On l'a déjà dit, l'April sera présent au salon Open Source Experience à Paris les 6 et 7 décembre 2023 avec un stand des deux conférence. Tout à l'heure, Magali parlait des groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices et d'aller à leur rencontre. Et bien, il y a un apéro du libre qui est organisé à Rennes jeudi 7 décembre 2023. Et pour les franciliennes et franciliens, un pot de lancement du livre Ada et Zangeman, un compte pour les, sur les logiciels skateboard et la glace à la framboise, est organisé ce jeudi 30 novembre au local de l'éditeur CF Édition, donc à Paris, en présence de 3 enseignantes ayant participé à la traduction et peut-être aussi de quelques élèves. Et on peut commander le livre sur cfédition.com. C'est un compte qui permet de découvrir un petit peu l'impact de l'informatique et du logiciel libre. Tu veux intervenir, Magali? Alors vite, rapidement,
vous
avant la
pourrez aussi le trouver à la librairie, donc chez moi, à Livre Ouvert, Paris 11e, et aussi sur la plateforme En Vente Libre, qui est à jour de ses envois. Je vous rassure, tout a été posté hier.
D'accord. Donc à Livre Ouvert dans le 11e, et sinon cfédition.com et enventelibre.org. Je vous rappelle que Cause Commune fait actuellement face à de gros problèmes financiers, au point que la radio n'est pas à l'abri d'un défaut de paiement dans les semaines qui viennent, et donc d'une coupure de l'antenne. Pour nous aider, rendez-vous sur le site causecommune.fm et cliquez sur le bon dos d'appel à don. L'émission va se terminer dans quelques minutes, vous pourrez nous aider juste après. Notre émission se termine donc. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Lucie Anglade, Guillaume Ayoub, Julie Chaumard, Magali Garnero, Isabella Vanni, Marie-Odile Morandi, Étienne Gonu et Luc. Et Étienne est également aux manettes de la régie aujourd'hui. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie Daniel Girondon, Langue 1, Julien Haussmann et Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio. Merci également à Quentin Gibault, bénévole à l'April, qui découpe les podcasts complets en podcasts individuels par sujet. Vous retrouverez sur le site web libreavoue.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio, causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions, nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Si vous préférez nous parler, vous pouvez aussi nous laisser un message sur le répondeur de la radio. Pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements, ou aussi pour nous poser une question. Le numéro du répondeur, 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission du jour. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et de faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. Et je vous rappelle le rendez-vous du 1er décembre 2023 à partir de 19h30 au 22 rue Bernard Dimet à Paris dans le 18e. A priori, nous ne ferons pas d'émission mardi 5 décembre car nous serons en train de préparer Open Source Experience. La prochaine émission aura lieu donc en direct mardi 12 décembre 2023 à 15h30. Notre sujet principal portera sur l'actualité du logiciel libre. Nous en débattrons au Café Libre. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 12 décembre et d'ici là, portez-vous bien.